Alpes-Maritimes, avec sur la porte deux inscriptions en lettres de sang. Omar m'a tué. Omar Radat s'est toujours défendu d'avoir tué son employeuse. Il avait été condamné à 18 ans de prison avant d'être partiellement gracié, mais la grâce en question décidée par Jacques Chirac à l'époque ne l'a pas innocenté. Omar Radat a toujours clamé son innocence et 20 ans après le rejet d'une première demande, il réclame à nouveau la révision de son procès. Un nouvel inédit est publié aujourd'hui de Céline, Londres, un roman qui dépeint les bas-fonds de la capitale britannique au début 1900. Londres est en fait la suite de Ferdinand, le premier roman édité par Gallimard, issu des feuillets que Céline avait laissés en fuyant Paris. Céline y raconte la convalescence de Ferdinand, gravement blessé au cours de la Première Guerre mondiale. 11h03 sur Inter.
Et si la France avait monnayé son soutien au Qatar en échange de contrepartie ?
France Inter, Jacques Monin.
Ce samedi, Secret d'Info s'intéresse aux coulisses de l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar.
Le Qatar a acheté les votes de 3 membres du comité exécutif. Cette odeur de corruption, elle est partout.
Pour cette enquête, la cellule investigation de Radio France s'est associée avec l'équipe de complément d'enquête.
Secret d'Info.
Le Mondial 2022, pourquoi la justice s'en mêle ? C'est ce samedi sur France Inter. Après le journal de 13h.
Quand Eric a entendu parler des plus que forfaits Orange, il a été...
plus que surpris.
Forcément, un téléphone à petit prix avec de super services, ça fait...
plus que rêver.
Mais comme c'était bien réel, Eric était...
plus que content.
Avec les plus que forfaits 150Go 5G ou 220Go 5G, profitez de super services et de téléphones à petit prix.
Orange.
Valable jusqu'au 16 novembre pour les nouveaux clients des plus que forfaits avec engagement 24 mois. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr.
France Inter M.
Cabaret de l'exil. Irish Travelers. Une création du théâtre équestre Zingaro. Avec sa tribu mi-homme, mi-chevaux, Bartabas explore l'univers des Irish Travelers. Nomades irlandais en exil dans leur propre pays. Une invitation à découvrir la culture de ce peuple voyageur, sa tradition orale et son amour du cheval. Cabaret de l'exil, Irish Travelers, à partir du 18 octobre au Fort d'Aubervilliers, un spectacle France Inter.
Et c'est la bande originale sur France Inter avec Nagui et Leila Kadour.
Merci Laetitia Gaillé, retour de l'info tout à l'heure à midi. Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Laura.
Et notre invité Joël Sfar.
Quelle audace, qui n'est jamais venu.
Première fois.
Écoute,
il est pas venu cette semaine.
Il a l'impression pour le prochain album là.
Il a plusieurs raisons de venir. Il a une actualité dense, notamment sa dernière bande dessinée chez Dargaud qui s'appelle La Synagogue. On va en parler avec lui dans quelques instants. Elle est sortie il y a une dizaine de jours, cette bande dessinée. Que faire quand t'as un titre comme Synagogue ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Un blind test de chanteurs juifs ? Ah, je suis pas allé sur ce terrain là.
Les lieux de culte.
Je suis pas allé.
Laura, ouais, je m'ai donné la foi au Philippe Winter. Alors,
attends,
elle a pas dit Laura, elle a fait.
Ça veut dire Laura.
Alors, si on fait des gestes maintenant. Ouais, pardon, excusez-moi.
C'est qui ?
Ophélie Winter. C'est ton ex ?
Hein ? Ma fille. Donc, les chanteurs avec des noms de saison.
Bah, après, il y a Springsteen. Forcément, après Winter. Qui chante ça ?
Leila, Malavoine.
Oh oui.
Oh Dieu que c'est beau. Oh, je suis vénère.
Je pense qu'elle peut te frapper.
J'ai vu ça.
Laura, méfie-toi.
Aïe, aïe, aïe.
Qui chante ça ?
Daniel.
Oui.
Gainsbourg. Dieu est un fumeur de Havane.
Dieu est un fumeur.
Bravo, Daniel.
Ouais, dès qu'il y a un truc à fumer, toi, tu connais.
Du don.
C'est mal le connaître.
Du don. Mais tu es dans le jugement.
Du don. Dès qu'il y a Gainsbourg, Daniel est sur deux.
Ah bah oui. Mais stigmatisé.
J'attends pas de juger, je condamne.
T'as raison, on va gagner du temps.
Un point pour Laura, un point pour Leila, un point pour Daniel. Comment ça va, Alexis ?
Bah, très bien. Bon. Je les avais. Plus tard.
Daniel, Sex Pistols.
Ah ouais. C'est The Queen.
The Queen.
J'allais dire Plastic Bertrand.
Ça aurait pu. Pas les mêmes rêves. Vous avez trouvé le thème.
C'est God.
Ouais, c'est God.
Dieu. Bah ouais, yeah. Dieu.
Il faudrait être
oula.
Des
Leïla.
Oui.
Il Daniel.
Mais qui Leïla
Daniel.
Kenji.
Oui. Comme si mouillé des yeux.
Ah, comme on a trop respecté la consigne.
Ouais, t'as vu, on était
première pas... fois ensemble. Parce qu'on s'aime, ouais.
Mouya d'Asia.
En duo avec Claudio Capéo, que Dieu me pardonne.
Ah, peut-être pour ça que je la connais pas.
Qui chante ça?
Daniel. Magnus la Clash.
Ouais, bien joué.
Et moi, je suis là.
Quoi?
Where do we go? Nobody knows.
Trop bien. Trop bien, mais je sais pas qui c'est.
I've gotta say I'm on my way.
Oh, bah si,
Vous connaissez cette voix?
Ouais.
Franck Latouf?
Alors, c'est pas Bono, non? C'est pas YouTube.
Non, c'est Coldplay.
Ah, c'est Coldplay,
ah,
bon, voilà.
S'en approche.
Je cherchais le mari de Gwyneth Paltrow.
Le mari de Gwyneth?
Bah oui.
Gwyneth
a un mari.
Ouais.
Bah oui. Bah ouais.
Attention, tout se joue maintenant là-dessus. Il y a forcément Dieu dans le titre. Ouh. Et ça rapporte 5 points.
Alexis, arrête à Franklin.
Non. D'ailleurs, je vais être plus précis. Le titre, c'est tout simplement Dieu.
Dieu?
En français?
Non.
Daniel, Prince.
Parfait.
Oh, bravo. Bravo.
C'était très beau.
Victoire de Daniel Morin. Oui. Et merci d'accueillir.
Coucou, coucou.
Bravo, Daniel.
Joël Spa.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue.
La bande originale avec Nagui et Leïla Kaddour.
Bienvenue, John, avec cette synagogue publiée chez Dargo, qui est sortie là il y a une dizaine de jours. Alors déjà, la première question qui me vient, évidemment, c'est comment allez-vous? Parce que vu le début de la bande dessinée, on est inquiet de votre santé.
Bah ouais.
Ah ouais, mais je l'ai faite il y a 2 ans quand même.
Bah, peu importe.
Un petit séjour à l'hôpital.
Vous ne tenez pas au courant, donc ouais. Nous, on ne savait pas qu'il fallait qu'on s'inquiète.
Et non, ça va bien. Dès que bon. Je suis malade, j'en fais des livres, tout va bien.
Et des rêves aussi, on va en parler avec l'évocation de Joseph Kessel, mais d'abord accueillons Laura Domand.
Ah oui.
Laura, j'espère que vous avez compris pourquoi John Sfar a été notre invité.
Mais oui, Nagui, pour me donner du fil à retordre. Ah, ce que je suis moderne, je me dégoûte avec cette expression. Non, mais en fait, il faut savoir que depuis mon entrée dans la bande originale, j'ai eu la chance de ne parler que d'invités qui venaient faire la promo de films. Ouf, pas de lecture de gros pavés. J'ai pu cacher ma dyslexie, mon TDAH et tous les trucs qui expliquent pourquoi mes bulletins scolaires ressemblent aux commentaires YouTube sous ma dernière vidéo. Peut mieux faire.
Oh non.
Et ta mère, elle pouvait pas mieux faire, Jean-Marc du 77. Mais bon. Du coup, aujourd'hui, manque de bol, il faut lire un truc. Heureusement, Joanne Sfar, il y a des images. Merci. Et je suis vraiment ravie d'avoir eu à le faire parce que je dois dire que je me suis rarement autant reconnue dans un ouvrage. Déjà, apprenez qu'on a quasiment les mêmes origines. Pour vous dire, moi je suis niçoise catholique par mon père et juive séfarade par ma mère. Oui, il n'y a que nous, Joanne, qui pouvons comprendre qu'entre ces deux mondes, le seul point commun, c'est l'huile d'olive. Et oui, je fais mon coming out de judaïsme à l'antenne. Alors, certains me diront, tu te fous de notre gueule, Laura, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Excellent. Excellent. Et d'autres penseront, elle croit vraiment qu'on l'a pas grillé, l'admisseur à Géraldine Nakache. Bon, Domange est une couverture en réalité, je suis un agent double. Dr. Jekyll et Mr. Hyde Beatball, c'est moi. La double culture, on appelle ça. Moi, j'appelle ça la galère. Moi, je faisais Noël et Kippour pour me faire pardonner d'avoir fait Noël. J'étais goy en mangeant un jambon beurre, mais juif si je refusais de le partager. Donc, je suis devenue végétarienne, comme ça on m'emmerde plus. Bref, j'ai été élevée le cul entre deux chaises, dont une que des hommes essayaient tout le temps de soulever en chantant Mazel Tov. Ce qui m'a quand même BD, c'est Paris, ma ville de naissance. Clairement, c'est la safe place. Alors que vous, vous viviez à Nice. Mais vous êtes un survivant. Déjà parce que vous n'avez toujours pas atteint l'âge médian de cette ville, 72 ans. Et en plus, parce que même si j'adore cette ville sur l'échelle du racisme, Nice, pour vous donner une idée, ça se situe juste en deuxième position, derrière la Zoubida de la gaffe. Dans votre...
C'est vrai, franchement.
Et vous connaissez aussi Nagui.
Non, c'est lui qui l'a écrit.
On y sera le propos plus tard. En attendant, je n'ai que 4 minutes. Dans votre ouvrage, vous évoquez tant de décors qui me sont familiers. Bon, bah déjà la synagogue, mais aussi et surtout, au rond, la station de ski que quand on vient de là-bas, on dit que c'est nul Isola. Oui, Joanne. Moi aussi, j'ai slalomé entre passer ma première étoile et cacher celle que j'avais autour du cou. J'ai passé une partie de ma douce enfance, plus précisément dans un village dans les hauteurs niçois. Ma grand-mère venait de là-bas, une femme très discrète, permanente roux-carotte, lunettes papillon dorées, orange à lèvres et bien sûr le fin du fin, mascara bleu.
Et bise à Camille.
Comment ?
Non, bise à Camille.
Bise à Camille. Moi c'est Nice. C'est pas pareil. Bref, ma grand-mère déteste tous les Arabes, sauf vous, Nagui, parce que je la cite, au moins il a pas la barbe. Voilà. Elle est pas antisémite parce que je cite, les Juifs sont de grands érudits qui gagnent très bien leur vie. Aïe. Je rappelle aux auditeurs que ce n'est pas vrai, les Juifs sont comme les autres êtres humains, il y en a des riches et des pas riches, des stylés et des Zemmours. Comme vos copains d'enfance dans le livre, ma grand-mère est raciste, mais sympa. Donc c'est très difficile de lui en vouloir. Ça m'arrange plus, moi, quand ils sont méchants. C'est comme le boycott. Demain, j'apprends que les fringues caporales sont fabriquées par les Ouïghours, j'ai aucun mal à être engagé. Mais quand c'est un Didas, on n'a pas vraiment de preuves. Bon. Bref. Ma grand-mère n'avait pas honte de ses opinions ni de sa coupe de cheveux, et moi, je pensais que c'était un cas isolé. Mais un jour, je dis à mes copines de là-bas, Jessica, Mélanie et Jessica. Oui, il y a deux Jessica. Je vous rappelle qu'on est quand même en région PACA. Je leur dis que j'étais juive par ma mère, catholique par mon père et musulmane par ma tata. Oui, autre chapitre de mes origines, mais on n'a pas le temps pour ça. Je suis un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à moi seule, à tel point que je me demande souvent qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire. Bref, le lendemain, c'est plus trois copines que j'avais, mais... plus. Voilà. J'en avais plus. En mode Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale, leurs parents leur avaient interdit de me parler parce que moi, visiblement, j'en avais trop dit. C'est pourquoi je vais m'arrêter là parce que j'ai encore envie qu'on se reparle demain. Même si Morgane, Nagui et Leïla, ce serait quand même un comble que vous me discriminiez.
Ouais, mais on a les pires.
Voilà. C'est vrai, il paraît. En tout cas, Joanne Sfar, merci d'avoir partagé votre histoire qui se révèle être finalement un bout de la mienne et sûrement un bout de celle de beaucoup d'autres.
Absolument.
Merci.
Bravo.
Laura, les vendredis et samedi à Paris, à la Nouvelle Scène.
Ouais. Tu embrasses ta grand-mère pour moi.
Ouais.
Le 30 septembre, donc, est sortie cette bande dessinée qui est, comme d'habitude, transparente par rapport à tout ce que vous avez vécu à Nice. Tout commence par ce...
Attends, il veut nuancer des trucs, là, je sens.
Sur Nice.
Non, mais il ne faut pas raconter que les Niçois sont racistes, parce mais que totalement. Profondément, je ne pense pas qu'ils le soient davantage que les Parisiens, je pense juste qu'ils sont plus grande gueule. Et là où on tombe de sa chaise à Paris, c'est quand on découvre des années après qu'en fait, non, moi je trouve que Paris est une ville beaucoup plus raciste que Nice.
Alors,
qu'à Nice, les gens, ils se disent des horreurs, mais ils mangent ensemble. Moi, je suis désolé, j'ai jamais perdu de copains à Nice en étalant mon curriculum qui est plutôt salé, quoi.
Jacques Médecin, dont certains peuvent se souvenir et pour lequel votre papa avait travaillé puis avait laissé tomber à cause de ses fréquentations extrêmes, c'est le moins qu'on puisse dire, avait quand même fait une campagne de pub dans la ville, des 4 par 3, il avait affiché des migrants sur un bateau en disant « remettez-les à la mer ». C'était ça, sa com. Donc on ne peut pas dire que la mairie de Jacques Médecin à Nice
non,
était...
Non,
j'y étais, arrête, écoute.
Dès que je dis un mot, dès que je dis un mot sur Jacques Médecin, c'est la fête à Twitter. Donc le livre, on me traite de médecin. Mon père a été un opposant historique à Jacques Médecin.
Oui.
Ils se sont alliés brièvement parce que Médecin l'a appelé en disant il faut qu'on lutte ensemble contre le Front National.
Absolument.
Mon père est venu et 2 ans après, Médecin a reçu Le Pen. Mon père est parti. Bon.
Et un négationniste aussi en conférence.
Mais ça, c'est le travail de Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen qui a reçu un ancien Waffen-SS à l'Acropolis de Nice. Il reste que Jacques Médecin était une figure locale et dont on connaît les défauts dans tous les domaines, mais c'était pas le raciste qu'on dépeint. C'était un type qui s'intéressait à sa ville et à rien d'autre, qui était sans doute clientéliste, qui avait sans doute tous les défauts qu'on peut imaginer. Mais moi, je dirais que c'est un peu comme la principauté de Monaco. C'est-à-dire qu'il voulait créer un royaume indépendant à Nice et à vrai dire, c'était pas tout à fait désagréable. Il y a des choses qui fonctionnaient. Hein. Je suis un opposant bienveillant au souvenir de Jacques Médecin.
D'accord. Et moi, j'ai des souvenirs.
Mais c'est pas possible quand t'es niçois de dire que t'aimes pas Jacques Médecin. Ça n'a pas de sens. C'est comme t'as Angoulême, t'aimes pas Boucheron.
Quand tu te prends des coups de matraque par la police municipale de Jacques Médecin parce que t'as collé des affiches pour un concert de rock, ouais, on n'a pas que des bons souvenirs. Mon dos s'en souvient en tout cas. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour étaler nos.
T'avais pas un peu provoqué non plus
J'avais provoqué parce que je travaillais pour Radio France. Je travaillais pour Radio France.
Espèce de gaucho.
Nice Côte d'Azur, voilà. Donc on était les gauchos.
Moi, ce que j'entends dans cette émission, c'est du racisme anti-niçois surtout.
C'est ça. Mais forcément, je suis canois. Donc, revenons à cette synagogue et surtout à ce moment où vous êtes atteint du Covid à l'hôpital et tout part de là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de d'angoisse en termes de santé, peut-être de mort même carrément. Je ne sais pas si ça a commencé.
Il y avait des gens plus jeunes qui mouraient dans les chambres à côté, donc ça me stressait. Et au bout de 3 jours, je vois le premier docteur que je vois au bout de 3 jours, manque de bol, il est juste gastro-entérologue.
Parce
qu'il n'y avait pas de docteur du Covid. Et il me dit, écoutez, on n'y connaît pas grand-chose, c'est récent. En tout cas, battez-vous. Et ça m'a semblé tellement... Enfin, j'étais pas en capacité, j'avais les fesses à l'air. Et partant de là, j'ai fait un livre à thème sur toutes les fois dans ma vie où on m'a demandé de me bagarrer.
Voilà.
Et il m'a semblé que c'était à peu près aussi absurde.
Avec ce rêve dû à un podcast ou à une lecture d'un roman de Joseph Kessel.
Oui, c'est que moi j'ai eu un père qui était une espèce de caricature de virilité brutale.
Avocat.
Voilà. Et je suis à l'hôpital, les fesses à l'air avec mon machin, et la voix de Kessel...
Non mais arrêtez. Tout le monde est les fesses à l'air à l'hôpital parce que la blouse.
Bah moi, je l'ai mal vécu.
Oui, d'accord.
Moi, je l'ai mal vécu. Tu te lèves pour voir le coucher du soleil et là, l'infirmière ouvre, elle voit pas le soleil.
Et tu vois le lever de la lune.
Voilà. je me voyais pas. Et là, t'écoutes les podcasts de France Culture et il y a la voix de Kessel qui a un vrai
de
bonhomme.
France Q.
Voilà. Et à un moment, t'as Kessel qui dit non, j'ai pas tué Hitler parce qu'il était trop médiocre, je me suis pas méfié. Tu dis bon, moi, je vais quand même essayer de faire 5 mètres pour aller faire pipi.
Et donc, non, mais pour l'anecdote, j'ai découvert ça. Joseph Kessel s'est retrouvé dans les années 30 à une réunion où il l'a entendu...
Les années 20. C'est une histoire vraie. Il est en Allemagne avec des copains truands à lui. De toute façon, il faisait le tour d'Europe et il entend Hitler dans...
On rappelle qu'il est niçois, pardon, qu'il est également...
Au lycée Masséna de Nice, il y a eu Romain Gary, Joseph Kessel et moi. Et...
Chute.
Mais qui sont les deux autres? Il y a eu Jacques Médecin aussi. Et il y a eu Christian Estrosi. Donc... Qu'est-ce que je voulais dire
à qui je dis
bonjour d'ailleurs Christian Estrosi parce que je viens à Nice bientôt et je voudrais ma table à la petite maison. Merci.
je rêve.
Avec Eric Dupond-Moretti aussi à qui je dis coucou. Lui c'est un vrai parachuté mais voilà. Bienvenue monsieur le garde des Sceaux. Donc Kessel est en Allemagne. Il entend parler Hitler et il est avec des copains truands. Ils ont tous un flingue dans la poche et il dit... Je l'ai pas tué parce que je me suis pas méfié parce qu'il était trop mauvais.
C'est ça.
Il prenait le micro. Donc, c'est une leçon. Méfiez-vous des gens médiocres en politique. Les politiciens
non,
qui sont
là,
en...
Ça sous-entend abattez-les tout de suite. Non,
non mais les politiciens qui sont en alerte Twitter tous les jours parce qu'ils ont sorti chaque jour une connerie plus grosse que la veille et on se dit c'est pas possible. C'est ceux-là qui finissent au pouvoir.
Il va falloir se méfier quasiment de l'ensemble de la classe politique alors.
Oui, parce que ça communique comme ça aujourd'hui.
Et la notion. Alors, pour en revenir au titre, la synagogue, c'est un endroit où
les juifs prient.
Vous êtes amené à vous rendre et vous ne voulez pas y aller. Les prières vous saoulent, c'est long, vous comprenez pas ce qui se passe. Et en fait, vous vous dites, la seule solution finalement pour être utile, et puis c'est le mot aussi, battez-vous, que vous entendez à l'hôpital qui vous renvoie cette image-là, c'est je vais faire la sécurité de la synagogue. Comme ça, je serai un bon camarade pour toute ma communauté, mais moi je ne serai pas à l'intérieur, je serai à l'extérieur, j'ai protégé la synagogue.
Moi je suis un peu comme le chat du rabbin, j'avais pas la foi chevillée au corps quand j'étais petit, mais vis-à-vis de mon papa, pas aller à la synagogue, c'était pas possible. Et le jour où j'ai découvert qu'on avait le droit d'être dehors, pour peu qu'on monte la garde, j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai remercié le terrorisme palestinien, néo-nazis. Grâce à eux, je pouvais passer mes Shabbats dehors. Juste ami antisémite, Kippour, c'est quand même... Kippour, tu enfermes des juifs pendant plus de 12 heures, sans manger, sans boire...
et sans appareil électrique,
à lire un bouquin gros comme Le Seigneur des Anneaux en hébreu, et parfois on répète des passages. Donc franchement, je pense qu'on se maltraite déjà assez nous-mêmes, c'est pas la peine d'en rajouter.
Bon, on n'y arrivera pas. Il va trop loin. On peut pas le rattraper. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Non, rien. Mais en tout cas, on peut évoquer la figure du père, qui est quand même une figure intéressante.
Et l'absence de la mère.
Et ouais.
Oui, c'est ça. Donc, il avait vraiment tout pouvoir.
J'ai eu un père très, très séduisant, puisque quand vous allez à la plage, les femmes se retournent sur lui, l'appellent par son petit nom. Donc, on sent qu'il est très connu.
Il
est
Nora.
Nice. J'ai mis des photos à la fin. Ouais. Il avait une Nora, mais il y avait aussi d'autres meufs. J'ai mis des photos à la fin pour qu'on voit qu'il était vraiment BG. C'était à la fois, il était beau, à la fois, il avait son bateau, sa nouvelle Alfa Romeo tous les deux ans. Mais en plus, il faisait des procès au parti néo-nazi et il foutait des néo-nazis en prison. Donc moi, c'était vraiment mon héros.
Mais il n'a pas revendiqué finalement un procès qu'il avait gagné et dont vous êtes extrêmement fier.
Ah non, c'est pas un procès, c'est un truc. Il y a eu l'an dernier les obsèques de ma tante Yolande Gage, qui avait 96 ans, et j'apprends à cette occasion par Martine Wachtin, qui est conseillère municipale à Nice, j'apprends que mon père a créé avec sa sœur le premier centre d'accueil de femmes victimes de violences conjugales, et c'était du conseil juridique gratuit. Mmh. Et ça, il s'en est jamais vanté, parce que manifestement, à ses yeux, c'était pas quelque chose d'essentiel. C'était normal
de le faire, mais pas de...
Il était beaucoup plus fier. Quand il sauvait la tête d'un criminel, il était beaucoup plus fier. Quand il disait « il est sorti du tribunal, les mains dans les poches », ça, c'était la phrase préférée de mon père.
Et lui aussi, bagarreur. Je ne sais pas si on peut vous qualifier de bagarreur, mais en tout cas, vous êtes passé par des cours de boxe, des cours de Krav Maga, qui est un sport.
C'est pas un art, c'est de l'efficacité.
Il y a beaucoup de gens à Paris qui font du jeûne intermittent et du Krav Maga, alors c'est pas le même truc. Hein. Là c'était vraiment quelque chose de pas
joli. C'est un sport de combat, des forces secrètes d'Israël.
Non, c'était la honte de mon père. C'est le jour où je me suis fait racketter pour ma bar mitzvah, c'est vrai. Et je l'annonce à mon père et il me dit, mais je préfère que tu reviennes ensemble plutôt que de te faire racketter. J'ai dit, papa, je veux apprendre les arts martiaux. Et là, il me regarde, mais vraiment comme si je n'étais pas son fils. Il dit, mais enfin, ça s'apprend pas. Si quelqu'un t'énerve, tu lui mets une patate. Et là, j'ai senti dans ses yeux une distance. Et j'ai essayé d'apprendre cette technique. C'est jamais vraiment venu.
Y compris les nunchaku. Et puis avec une professeure d'art martial.
Ça, c'est mon moment féministe. C'est à l'époque où il y avait la prof d'art martiaux. Et c'était un peu Sharon Stone de Nice, si vous voulez.
Ça avait l'air d'être un canon, oui.
Oui, enfin, selon mes critères.
C'est ça.
Et enfin, moi, j'ai toujours tenté de réussir mon intégration. Donc, dès que je vois une blonde aux yeux bleus, je me dis qu'il y a moyen
de moyenner.
Il y a moyen d'échapper si. Et donc, il y a un moment où elle essaie de m'apprendre le nunchaku. Effectivement, ça prend 2-3 pages. Je me suis un peu fait plaisir dans ces pages.
En tout cas, il y a aussi les bandes de potes, il y a l'antisémitisme que vous subissez, et puis les fréquentations que vous avez, y compris en repérant des fascistes dans la région. Mais vous n'arrivez pas à leur en vouloir. Limite, non. Vous devenez pote avec eux.
Moi, je suis assez nul pour me faire des ennemis. Puis à Nice, il n'y a pas beaucoup de monde. Et quand on voit de loin un gars qui a des croix gammées, et des Rangers, et quand on a une famille maternelle qui est morte dans la Shoah par balle, on se dit c'est mon ennemi. Le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, il est globalement sympa et on se retrouve à prendre des cafés. Donc j'espère juste que mon père me voit pas prendre un café avec un skinhead.
Mais on peut pas être sympa avec des croix gammées tatouées sur le bras.
Si c'est bien dessiné.
Franchement, moi je veux bien que vous m'expliquiez avec qui on n'a pas droit d'être copain, mais je suis pas doué pour ça, quoi. Moi, dès qu'on me dit c'est lui l'ennemi, je vais finir au café. Mes rêves quand j'étais ado, je rêvais que j'étais au bistrot avec Jean-Marie Le Pen et que j'essayais de lui expliquer que Chagall c'était bien. Mais je me réveillais avant de le convaincre à chaque fois.
C'est ce qu'on retrouve aussi dans cette bande dessinée. Tout est présent. Et alors, parallèlement à ça, vous avez publié également On s'en fout quand on est mort chez Gallimard Jeunesse, qui est alors c'est formidable parce que vous démarrez cet ouvrage en disant « parce que je suis en retard pour la synagogue, j'ai une bonne excuse auprès de mon éditeur, je dis que j'ai démarré un autre livre ». Et en fait, l'autre livre va devenir, votre carnet évidemment, le carnet de bord, va devenir encore plus épais et encore plus dense que le travail sur la synagogue. Et il y a une espèce de making-of en fait, c'est une mise en abîme où on vous voit travailler et réfléchir à la synagogue.
Oui, c'est ça où je vais au bistrot. Donc quand
observer les autres, il faut dire, vous n'êtes pas un alcoolique notoire.
Non, mais parce qu'une vraie bande dessinée comme la synagogue, c'est un peu du travail. il faut préparer, il faut machin. Tandis qu'incarné, c'est comme si je chantais sous ma douche. C'est-à-dire, ça, c'est la vie
ça
comme
vient
ça
tout
vient.
Seul, naturellement, voilà,
donc
ouais.
Ça, l'un soigne de l'autre. Et c'est vrai que je dessine, par exemple, comment je me dessine à dos, bah, je savais pas faire. Donc j'ai pris des photos de famille, je les ai collées dans mon carnet, j'ai dessiné les petits trucs. Je suis prof aux Beaux-Arts, je raconte les galères avec mes élèves qui sont plutôt marrantes.
Pardon, mais continuons sur vous. Avec ou sans barbe aussi, la question se pose.
Voilà.
Barbe longue, barbe courte.
Voilà, c'est que la barbe est tellement pénible à dessiner que j'ai failli la raser. Et après, je me dis non, c'est pas du jeu. Je me dis finalement, je commence à ressembler au rabbin du chat du rabbin à force de vieillir, donc on va partir là-dessus. Ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Et en plus, on voit pas le double menton, donc c'est.
C'est un double effet. Et puis, il y a aussi cette. Ce passage, presque une déclaration d'amour à l'actrice qui était dans Gainsbourg.
Ophélia Kolb.
Ouais, Kolb. Qui. Où vous expliquez comment vous réussissez à la convaincre de poser nu comme comme au Beaux-Arts, puisque c'est la scène qu'elle devait interpréter.
Oui, c'était pendant le film de Gainsbourg. J'avais jamais fait de cinéma et Ophélia Kolb non plus. Et elle venait du théâtre, moi je venais des bandes dessinées.
Et elle n'avait jamais posé nu.
Non, et puis moi j'avais jamais demandé à quelqu'un de poser nu. Et en fait, forcément, je cherchais quelqu'un pour jouer un modèle nu dans la scène où le petit. Et je sais pas comment.
Le petit Gainsbourg se
veut dessiner des femmes nues, mais il y a un nazi sur le chemin. Donc
c'est ça.
Bon, je sais pas comment lui demander. Alors je regarde mes chaussures et c'est Ophélia qui en parle directement. Elle dit bon bah tu veux que je sois toute nue dans ton film. De toute façon tu vas pas mettre un pot de fleurs devant les nichons. Je dis bah non. Elle dit écoute, je vais le faire et pour une très bonne raison. C'est que mon père est un des plus grands metteurs en scène de théâtre en Turquie, et quand il va voir que je suis nu dans un film sur un écran de 27 mètres de base à Cannes, il va être tellement en colère. Alors j'ai dit que si je suis l'instrument d'une espèce de règlement familial, je suis très content.
Mais ce qui est passionnant, c'est de lire les deux, parce que les deux exercices ne sont pas les mêmes entre le carnet et la bande dessinée, que la synagogue, il y a vraiment une logique narrative, alors que dans les carnets, on a vraiment le sentiment de vous suivre au quotidien et de passer en fonction de l'humeur d'un état d'esprit à l'autre, d'une rencontre à une autre, de toujours croquer essentiellement des femmes lorsque vous êtes au bar ou...
Non, elles sont imaginaires dans celui-là. Là, pourquoi il y a plein de nanas?
Pas toutes, parce qu'il y a certaines aussi, vous dites l'avantage, c'est que moi je suis dans mon coin en train de dessiner et on
croit... Tu t'es levé ce matin en disant je vais foutre Jonas Farr dans la merde, c'était le but de cette matinée.
Non, et on croit qu'on ment, on croit que je ne les entends pas, on croit que je ne les vois pas,
oui,
mais je les dessine.
Ça,
quand même.
C'est vrai. Ça, c'est l'avantage de Paris. C'est que dans une ville normale comme Nice, tu dessines une fille, elle vient de parler, au pire, elle t'engueule. L'avantage de Paris, c'est qu'une fille est là, tu la dessines, elle a tellement l'habitude de se faire emmerder qu'elle va jamais tourner un œil vers toi. Donc tu peux vraiment avoir des natures mortes au café. Je peux regarder les gens à 2 cm, je fais mon dessin et j'ai jamais droit à.
Maman, c'est la police qui va venir vous parler.
Là, c'est gênant.
Non, je sais pas. Je me demande dans quelle mesure c'est pas intéressant de demander à la personne si elle est OK.
Ah non, j'en ai rien à foutre.
Ouais, mais bah, si je pose la question, une forme de consentement qui n'est peut-être pas inintéressante d'être présentée.
Moi, j'en ai rien à foutre parce que c'est l'espace public. On est dans l'espace public, on dessine les gens.
Il y a un droit à l'image sur une photo, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit.
Oui, moi, je ne sais pas faire ressemblant, donc.
Vous n'avez pas le droit de prendre en photo. Voilà, vous n'avez pas le droit de prendre en photo quelqu'un sans son accord. Par contre, la vraie question, de le dessiner, c'est une liberté.
En fait, quand je dessine, j'ai un regard vitreux. Donc, quand je suis à côté, je regarde comme ça. Je pense que les gens, pendant deux secondes, se disent.
C'est angoissant. Elle doit dire. Voilà, ouais.
Les gens, oui, c'est Dahmer. Ouais. Les gens, pendant deux secondes, en plus, si vous saviez ce que disait mon prof de dessin, disait, si vous dessinez avec émotion ou avec amour, ce sera loupé. Vous devez vous rappeler que Joseph Beuys a réduit l'être humain à un tas de graisse. Donc vous devez dessiner vos semblables comme si c'était de la viande.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'il y a une objectivation.
C'est bien.
Voilà. Donc, oui, alors dit comme ça.
La viande, nature morte, on est bien aujourd'hui.
Et il aime les femmes, t'imagines?
S'il les aimait pas.
On va continuer de parler de la synagogue publiée chez Dargo, signé John Sfar, et puis également chez Gallimard Jeunesse, On s'en fout quand on est mort. Il y a même la naissance du titre et de la vanne aussi racontée dans les.
C'est une réponse à Comment maigrir. Comme celui d'avant s'appelait Comment maigrir, je trouvais que la réponse On s'en fout quand on est mort, c'est très bien.
John Sfar est notre invité jusqu'à 12h30. Et voici Morgane Cadignan.
Oui. Comment ça va tout le monde?
Très bien, toi.
Ouais, bah vous avez de la chance. Écoutez, non, moi franchement, la semaine avait bien commencé. Je vous jure, c'était bien parti. Je suis allée refaire mon passeport cette semaine. Quand je dis cette semaine, je parle de toute l'intégralité de la semaine. Ah, j'y suis allée 4 fois, vu qu'il manquait à chaque fois un extrait d'acte de naissance, un justificatif de domicile, le sang du Christ, du gasoil. Je voulais, moi à la base, les amis, je voulais partir en voyage. Je pensais pas que le voyage serait de refaire mon passeport. Un long voyage à travers ma patience, j'ai dû refaire la photo 3 fois. Remarque, c'est la première fois qu'on me disait, vous souriez trop. Après, on m'a dit que j'étais floue, et la troisième, ça n'allait pas parce que, bah, juste ma tête, quoi. Je vous jure, à la préfecture, ils m'ont même pas donné d'excuses. C'est hyper vexant. Le gars m'a juste dit non. Mais putain, quand est-ce que vous allez comprendre que le problème, c'est mon visage, c'est ma bouche qui penche, c'est pas le photomaton, quoi. Et c'est là que ma semaine se complique. Une semaine, encore une fois. Après, je rentre dans un café, il y a Johan Sfar qui me dessine, bref. Et ça, c'était lundi à 11h.
T'as de viande.
C'était lundi à 11h. Donc, ça aurait été dommage de pas faire un burn-out express avant le déjeuner, quoi. Je sais pas ce qui se passe, messieurs, dames, en ce moment, en termes de retour de karma. Je sais pas si c'est moi qui ai balancé Rosa Parks au contrôleur. Je sais pas si un jour j'ai regardé C'est quand clou en disant franchement c'est pas mal. Mais je prends si cher. Je vais à la sous-préfecture et je tombe sur la personne la plus mal aimable du monde. Vous voyez une porte de prison? Ouais, bah c'est le gars qui dit à la porte de prison arrête d'être trop aimable, Carole. Je suis arrivée, j'ai dit bonjour, je vous jure, le mec m'a pas répondu. Il me dévisage avec un air de dégoût. Bon, jusque-là, Nagui, il y a 1 heure, quoi. Il s'est contenté de tendre la main vers moi par-dessus le comptoir. Et bien sûr, avec le recul, je me rends compte qu'il me l'attendait pour saisir mes documents. Sauf que c'était trop tard. Ma main à moi était déjà en route pour serrer la sienne. Un moment de solitude. Ah, mais je me suis sentie si seule. Ah, je me sens si seule, mais comme quelqu'un qui a kiffé le dernier Romain Gavras, quoi. Puis comme dans les moments de gêne, bah moi, je fais des blagues nulles pour dissiper. Quand il m'a demandé pourquoi j'étais là et que j'ai répondu, eh ben, pour un frottis. Ça n'a pas apaisé nos rapports. Et je sais même pas pourquoi je m'inflige alors que j'ai absolument zéro, aucun voyage de prévu. Mais je fais ça tout le temps. C'est mon truc. Je fais des trucs chiants en prévision d'un truc peut-être bien qui arrivera peut-être un jour. Comme ça, c'est fait. Comme mettre une bouteille de champagne au frais parce qu'on aura peut-être quelque chose à fêter. Ouais. Sauf que le truc que je devrais objectivement fêter en ce moment, c'est de réussir à arrêter de boire. Donc, pas de fête prévue. Je tiens ça de ma grand-mère paternelle qui fait toujours le ménage à fond ou au cas où quelqu'un rende visite. Ouais. Puis quelqu'un rend visite, elle lui demande de passer plus tard parce qu'elle est crevée d'avoir fait le ménage. Et c'est une pathologie de pas vouloir se laisser surprendre. Ça s'appelle l'anxiété d'anticipation. Ah. Moi, ma religion, c'est celle du au cas où. On fait pas 5 prières par jour, on en fait 10 au cas où. Ça coûte pas grand-chose. Les bougies d'Hanouka, on en allume 25 au cas où. On circoncit un peu plus au cas où. Voilà, les hommes de ma religion, ils ont des tout petits pénis, mais c'est pas grave. On a plein de tout petits préservatifs au cas où. Et je suis le pur produit de la société dans laquelle je vis. Faut tout prévoir. Moi, j'ai la météo agricole sur mon iPhone en plein Paris. Je me suis pas fait surprendre par une averse depuis 7 ans. Je congèle mes ovocytes au cas où. Je veux un bébé plus tard. Je congèle un cake au cas où. J'ai des invités pas prévus. Je congèle même une pilule abortive au cas où. J'ai des invités pas prévus avec qui je ferai quelque chose pas prévu qui pourrait donner d'autres invités pas prévus en forme de petit bébé. Et mon psy m'a demandé, c'est intéressant ça Morgane, est-ce que c'est une façon de congeler le temps qui passe?
Oh.
Hop, j'ai congelé mon psy. Écoutez, moi j'annonce, maintenant je congèle tous les gens qui me font un peu chier. Je fais plus un rendez-vous amoureux ailleurs que chez Picard. Comme ça, au premier...
Et alors, Nagui et Leïla, ils sont comment?
Ouais. Hop, dans les poêles et forestières. Ça dégage, il m'a saoulé lui aussi. Et je suis pas la seule, je crois que depuis le Covid, on n'est plus humainement en mesure d'aimer les surprises. Plus personne n'aime ça, le truc où tout le monde est caché chez toi le soir de ton anniv et attendre que tu rentres, franchement, non, hein, vous m'oubliez. À part si c'est surprise, on s'est tous réunis chez toi pour t'annoncer qu'on part de chez toi immédiatement. Non, moi si des gens rentrent à mon domicile sans que ce soit prévu, je pète un câble, ils vont aller se planquer derrière mon canapé, alors que ça se trouve, il y a quoi? De la poussière, un gars menotté à poil que j'ai oublié là il y a des années. Oh, vous croyez qu'il est où, Pierre-Emmanuel Barré, sans déconner. Avec mes potes pour trouver une date commune pour un dîner, on se fait des doodles. Donc si tout le monde se réunit au débeauté, c'est que l'un de nous va mourir et que les autres font un dernier effort. Ceci dit, c'est une manière comme une autre d'annoncer les choses, quoi. Le surprise avec ton cardiologue qui pop-up de derrière la commode avec une enveloppe dans la main. Oh bah docteur, c'est la première fois que vous venez à mon anniversaire. Ouais, vous habituez pas à ce que vous veniez? Non, à fêter vos anniversaires. D'accord. Allez, vite les bougies parce que ça va pas durer cette histoire d'avoir du souffle. Donc anticipons les amis, à fond, tout le temps, prévoyons, organisons absolument tout au cas où. Et comme ça, si une jolie surprise nous tombe dessus, on aura tout réglé autour pour pouvoir en profiter à fond et réussir à profiter en ce moment, c'est toujours surprenant.
Ouais. Merci Morgane.
Morgane, tous les mercredis à l'Européen, c'est à Paris et le 11 novembre en Bretagne à Auray.
La synagogue de Johannes Farr avec cette baseline entre guillemets, battez-vous, bat-toi, maudit par le docteur, maudit par votre papa aussi, et puis par les coachs sportifs que vous rencontrez. Mais se battre dans la vie, c'était se battre contre qui pour votre papa quand il disait bat-toi, c'était contre vous-même, non? J'ai peur.
Mon père, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a eu une passion et pour la justice et le combat juridique, etc. Oui. Et dans la vraie vie, dès qu'on rayait sa voiture, il mettait des coups de poing. Donc je pense qu'il y a, oui, il y a un combat contre soi-même.
Au point d'être radié pendant 3 mois et de dire c'est la loi, je dois accepter la loi.
Bien sûr, il y a un mec qui lui a dit vous n'allez pas me cogner parce que vous êtes avocat, vous risquez de vous faire radier du barreau. Mon père a dit vous avez raison, il l'a cogné, il a été radié pendant 3 mois et il allait fêter ça avec moi au restaurant. C'était une manière de m'expliquer
que la loi s'applique à tout le monde.
Oui.
Vous prenez des positions politiquement quand même aussi. Dès qu'on parle de Palestine dans un livre et d'Israël, ça met toujours tout le monde.
J'essaie de rappeler quelque chose qui est peut-être un peu salubre et qui est difficile à imaginer aujourd'hui. C'est les opinions de mon père. C'était très favorable, au nationalisme arabe. Et profondément sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son état d'esprit, il y avait eu des empires comme l'Empire britannique, l'Empire ottoman, et après leur écroulement, les peuples laissés livrer à eux-mêmes ont essayé de s'autodéterminer. Mmh. Et dans cet état d'esprit, je trouvais que c'était positif, je trouvais que c'était constructif, et il disait que dans les deux camps, la limite c'était la violence, la limite c'était le terrorisme. Ça passe pour un discours naïf, mais c'est salubre. Tandis qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a
Donc ça veut dire les deux peuvent vivre...
Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est qu'il n'y aurait pas eu de projet d'État d'Israël s'il n'y avait pas eu les socialistes italiens à la fin du 19e siècle. Et Yasser Arafat a eu toutes ses grandes idées en observant ce qui se passait en Israël. Donc il y a une théorie des dominos qui aurait été positive si l'histoire avait été plus intelligente, qui amène les peuples à s'autodéterminer. Il n'y a pas eu d'idée d'État palestinien avant qu'il y ait un État israélien. Donc ça, pour mon père, c'était une logique. C'est-à-dire qu'on pouvait être à la fois profondément sioniste et il était favorable à Ferhat Abbas, il était favorable à l'indépendance de tous les pays arabes. Et aujourd'hui, ça paraît incongru de dire des choses comme ça. Donc j'essaie juste de remettre dans une autre réalité la pensée du Proche-Orient.
Et puis ça reste un message de paix, quand même, globalement.
Ou de désespoir, parce qu'on voit bien que quand j'étais petit, mon père il me disait, tu comprends, l'erreur, c'est le terrorisme. On peut avoir la cause la plus juste du monde, dès qu'il y a le terrorisme, c'est pas acceptable. Et je lui disais, mais on voit bien que la voie légale, ça marche pas. Et il me répond, le terrorisme ne marchera pas non plus. Mmh. Ça veut pas dire qu'il avait une solution. Et je trouve que dans les problèmes qui n'ont pas de solution, il y a une certaine sagesse.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que votre père disait toujours « bat-toi ». Donc en fait, il incitait même à se battre par des moyens qui n'étaient pas forcément les plus intelligents. Et donc, avec le parallèle que vous établissez entre la voie juridique, la voie légale qui n'avance pas et le terrorisme, finalement, il vous enseigne au quotidien dans votre façon de vous...
Lui, son combat, c'était... Lui, il disait pas qu'il fallait tuer des gens. Son combat, c'était contre la peur. Il me disait la peur a jamais fait de bien aux Juifs.
Donc bat-toi contre toi et ta propre peur. Quoi.
C'est la fameuse interview de Kessel, ça mon père la connaissait, quand on dit à Kessel, mais en fait, quand vous étiez petit, il y avait de l'antisémitisme en France, et il dit ah non, il y avait l'Action française, on leur cassait la gueule. Et j'ai hérité de lui, et ça me paraît très bien, c'est on baisse pas les yeux, on n'a pas peur, de toute façon, si quelqu'un veut te taper, il va te taper quand même. Mais en revanche, il n'a jamais été favorable à quoi que ce soit d'illégal. Enfin, je ne sais pas s'il avait compris que casser la gueule à quelqu'un, c'était pas très légal.
On va parler de musique aussi, dans quelques instants, on va recevoir Marianne Matar Bonucci, qui est professeure d'histoire, spécialiste du fascisme et de l'antisémitisme, et nous allons parler de la menace de l'extrême droite aujourd'hui qui grandit, et c'est valable dans tous les pays du monde, malheureusement. On va commencer pour la musique. En 92, Johannes Farr, vous écoutiez...
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir.
Pigalle, c'est le nom du groupe, hein. Pigalle.
Et on vous retrouve dans une ambiance, peut-être Pigalle, c'est aux Beaux-Arts. À cette époque-là, en 92, vous êtes en deuxième année. Vous faites une maîtrise de philo en parallèle. Tout ça pour quoi ? Considérer qu'on fait des études plus sérieuses que d'autres ?
Rassurer mon père et faire les Beaux-Arts en même temps. Et c'est vrai que l'arrivée du groupe Pigalle de François-Hadji Lazaro et de son équipe, il surjouait le côté apache parisien et tout ça. Moi, j'étais très sensible à ça.
Quels ont été vos premiers dessins ?
J'ai dû dessiner dans le journal de la fac à Nice.
Ouais.
Il y avait un journal qui s'appelait, ça s'appelait la taupe, je sais plus quoi. Enfin, il y avait un journal d'étudiants. C'était pas forcément brillant. Hein, parce que
pourtant, un bon titre.
Oui, c'est ça.
Vous avez senti dès le départ qu'il y avait quelque chose que vous aimiez représenter comme une forme d'obsession, qu'il y a un truc qui allait revenir.
Les gorilles. Je dessinais des gorilles un peu comme Donkey Kong, mais j'y arrivais pas trop en plus.
En 2002, vous écoutiez.
Est-ce que je voudrais être un fauteuil contre mon orgueil.
Je voudrais être en fauteuil dans un salon de coiffure pour Dame Guana Diffusion.
Ah ouais, j'aimais tellement ça. Ça, c'est ça.
Et... Vous savez que ce point de départ, c'est une vanne en fait.
Bien sûr.
C'est une blague d'un arabe dans le désert qui rencontre un génie et qui lui dit quel est ton vœu et je l'exauce tout de suite et il dit je voudrais de l'eau, je voudrais beaucoup d'eau, je voudrais être blanc et je voudrais voir que des fesses de femmes. Il s'est retrouvé bidé au Plaza ATD.
ça me plaisait beaucoup.
On est en 2002, Johan, et c'est la publication du Chat du Rabbin. C'est le début d'une très belle histoire avec cette maîtresse merveilleuse, ce chat qui s'interroge, qui porte un regard assez critique en fait sur la religion, sur l'enseignement que dispense ce rabbin. Le judaïsme au cœur de votre œuvre. Vous posez une question intéressante dans cet album sur est-ce qu'il faut abandonner le judaïsme ? Est-ce que je dois tout représenter dans le judaïsme ? On en arrive forcément à la question du génocide. La représentation
ça fait beaucoup de questions en une. Ouais. Le chat du rabbin, c'était une tentative de dédramatiser l'héritage, quel qu'il soit, et pour soi et par rapport aux autres. Donc après, oui, il y a la question de les témoins directs de la Shoah disparaissent. On sait qu'il faut transmettre ce récit. Je ne crois pas que l'imaginaire et la dramaturgie soient les meilleurs outils. Moi, je préfère les travaux d'historiens, les travaux de journalistes. Mmh. Et je n'ai pas trop envie de faire un récit imaginaire sur la Shoah. Je ne saurais pas le faire. En revanche, flécher vers des travaux d'historien, oui.
En 2013, c'est votre premier roman et vous écoutiez.
This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene.
Vous êtes musicien, vous jouez de la guitare, et ça aussi on le voit beaucoup dans vos bandes dessinées. Vous êtes réalisateur aussi. Les bandes originales dans une émission comme celle-là, je suis obligé de vous poser aussi la question de films. Ça vous touche ?
Ah,
c'est
oui.
Un personnage supplémentaire ?
Ah oui, c'est nuit et jour quand je dessine des BO de films. Ça c'est super. Il y avait une interview de Tim Burton et il disait je dessine aussi bien les pays froids parce que j'ai grandi sur la côte ouest des États-Unis. Alors moi le niçois ça m'a beaucoup parlé.
Ouais.
2013 c'est votre premier roman, L'Éternel, où vous racontez l'histoire de deux frères. On est en 1917, a priori, voilà, la situation initiale n'est pas très drôle, on est sur le front russe, et ces deux frères, l'un d'entre eux meurt, mais se transforme en vampire, et il suce le sang des gens, et il a des vrais problèmes de la vie de tous les jours, lui aussi, tout simplement.
Oui,
c'est un être comme un autre.
C'est Seinfeld chez les vampires, un petit peu, L'Éternel. Oui, c'était ça.
Et qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a généré cette histoire-là ?
Moi, je suis super fan du Nosferatu de Murnau, je voulais faire ça en comédie, enfin, je sais pas si c'est très drôle, en fait, le roman, mais j'étais content de le faire ça.
Tout la tête de petit vampire.
Ah, ça aussi, c'est toujours une petite obsession des vampires.
Ouais, c'est toujours, ça vous accompagne. Ouais. Pourquoi ça vient d'où ?
Parce que j'aime bien les
des
monstres.
Récits d'enfants,
j'aime
ouais.
bien les monstres, ce sont des masques, c'est un héritage, c'est marrant.
Oui, mais ça fait peur aussi les monstres quand on est petit.
Oui, mais quand on les apprivoise, quand on se dit il y a des personnes qui vont me parler la nuit, qui vont éventuellement faire mes devoirs.
Et quand on les dessine, c'est un moyen de s'en servir pour faire peur aux autres.
Oui, puis de réfléchir à sa propre tête. C'est des outils pour raconter des choses parfois intimes, parfois rigolotes.
En 2016, vous écoutiez Johan Sfar, Sidney Bechet. Vous en êtes tout d'ailleurs de la musique, vous jouez toujours de la guitare ?
Moi ça fait 15 ans que je prends ma première leçon de guitare, donc forcément je progresse pas beaucoup. Je prends une leçon, j'arrête 6 mois, je prends une leçon, ça marche pas en fait autrement.
Et c'est la publication d'un bouquin un peu particulier, Comment tu parles de ton père ?
Oui.
Parce que même si vous avez avancé que c'était une forme fictionnée, construite comme une fiction, c'est quand même considérablement basé sur votre vie.
Oui, c'est ça, c'est comment tu parles de ton père. C'est presque l'introduction à la synagogue. C'est ouais. Le récit de la mort de mon père à Nice il y a une dizaine d'années. Et comme je ne savais pas quoi en faire, j'en ai fait un livre. Et lui, il aimait Sidney Bechet. Il avait eu la chance à Alger de jouer brièvement avec Sidney Bechet parce que le pianiste de Bechet était bourré. Et c'est mon père qui faisait la première partie à continuer. Alors voilà, c'était la gloire de la famille. Et ce, petite fleur, à chaque fois, ça me fait penser à mon papa.
Oui, et puis il y avait aussi le divorce qui venait à peu près dans cette même période, non ?
Ah oui, moi j'ai divorcé, oui, à ce moment-là. Oui, oui, oui. Oui, je me suis retrouvé célibataire sans savoir ce que c'était.
Ah oui, genre, je vous rappelle.
Non, mais oui, j'en fais tellement, je ne les lis pas tous. Hein. Mais c'est... Non, j'ai divorcé après 30 ans de vie de couple, donc je ne savais pas du tout ce que c'était d'être célibataire. C'est très intéressant comme état.
Vous avez failli dire, je le recommande à tout le monde.
Oui, et alors après, au moment où ça commençait à me plaire, j'ai rencontré ma femme, et depuis ça va bien.
Voilà, très bien. On va parler avec Marianne Matin-Bonucci. Merci de venir à ce micro, madame. Vous êtes professeure d'histoire à l'Université Paris 8, spécialiste du fascisme et de l'antisémitisme, qui est évidemment très... les deux sont très présents dans la bande dessinée de Johannes Pfaar. On fête, on célèbre, on subit les 50 ans du Front National en France. Est-ce que qui se défend toujours de ne pas être fasciste, de ne pas être antisémite et d'être de naviguer comme ça en eau trouble?
Alors, on célèbre les 50 ans du Front National et on célèbre le centenaire de la marche sur Rome, qui a été la fondation du régime fasciste italien, l'original, hein, le doc. Moi, je suis plutôt spécialiste, en l'occurrence, d'ailleurs, de celui-là. Alors, pour ce qui est du Front National...
Avec un retour aux affaires du fascisme en Italie.
Voilà. Alors, on peut après discuter, savoir
terme...
s'il faut... Oui, moi, je pense pas que ce soit un parti fasciste, mais je crois qu'ils n'ont pas soldé les comptes avec le fascisme. Mais
quelle est la nuance, justement? Non, c'est important parce que...
Fascisme est un... Il y a un vrai projet politique, si vous voulez, de transformation radicale de la société, totalitaire, de révolution anthropologique, c'est-à-dire on va changer complètement le caractère de l'homme sur des valeurs rétrogrades, mais on va le changer. Et dans le projet de Meloni aujourd'hui, il n'y a rien de tel, mais...
Qui est la femme qui a gagné en Italie.
Mais quand on lit son autobiographie, on voit qu'elle est extrêmement nostalgique du néo-fascisme, c'est-à-dire ce qui est apparu après 1945, et qu'elle a de gros problèmes à liquider la référence au fascisme en tant que tel. Hein. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve
un peu... Parce que ces partis d'extrême droite cherchent à s'acheter une image en se défendant d'être fasciste, en se défendant d'être raciste.
Oui, alors, je pense que c'est plus juste de parler de droite radical populiste avec un certain nombre de caractéristiques.
Mais pardon, ce n'est pas faire leur jeu que de dire c'est une droite radicale et de ne pas les appeler par leur nom, c'est-à-dire fasciste.
Je pense qu'il ne sert à rien de crier au loup pour attraper un renard, en l'occurrence.
Ouh, c'est joli ça.
Et qu'il vaut mieux nommer les
choses.
Je ne
suis pas d'accord, j'ai attrapé beaucoup de...
Ah, ça t'a attrapé des trucs, toi.
De renards et de loups et autres.
Et je pense qu'il faut nommer les choses pour pouvoir les combattre correctement, si vous voulez.
Oui, donc mais ce n'est pas parce qu'ils se déguisent qu'on ne peut pas les appeler.
Mais lisez les programmes, entendez ce qu'ils disent.
J'ai pas le temps, madame, j'ai du travail, j'ai des choses à faire.
Moi, je les ai à la maison.
Et vous verrez que c'est quand même différent de ce qu'étaient les programmes des fascistes qui combattaient la démocratie libérale. Après, ce sont des menaces pour la démocratie, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il faut les combattre sur des terrains qui sont pertinents. Et leur fonds de commerce, et moi je pense que le vrai combat, il est là aujourd'hui, et ça c'est une continuité avec ce que raconte Johannes Pfaar dans la BD, c'est la xénophobie, c'est le racisme, et pour certains d'entre eux, c'est encore l'antisémitisme. Donc c'est sur ces terrains-là qu'il faut effectivement s'engager, plutôt que de crier au fascisme. Je veux dire, ils n'ont plus l'intention d'organiser des marches en chemise noire, etc. Les nazis
parce qu'ils savent, madame, que ce n'est pas la meilleure com, entre guillemets, à faire.
C'est pas que de la com, parce qu'il y a eu quand même, je veux dire, une installation des régimes de démocratie libérale, et donc ils jouent le jeu des élections, et voilà. Donc après, je ne dis pas que par la suite, ils ne peuvent pas revenir à des stratégies autoritaires. Et d'ailleurs, dans le programme en Italie de Fratelli d'Italia, et c'est sans doute l'intention de Marine Le Pen, il y a la volonté, effectivement, d'avoir des exécutifs beaucoup plus forts. Oui. Hein, mais on n'est pas dans des programmes fascistes à proprement parler. Mais il y a un danger pour la démocratie. Et donc, il faut vraiment cerner l'ennemi, si vous me passez cette expression.
Volontiers.
Bon, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas les gens pour qui je vote, vous l'aurez compris.
Ouais.
Mais il est important, je crois, de les décrire justement pour mm-hmm. pouvoir les combattre efficacement.
Avec cette grande, voilà, avec ce grand raisonnement qui est de dire, mais c'est la démocratie, laissez-nous les élire si on veut et vous verrez bien ce qui se passe. Sauf que les messages restent très tendu et ça ressemble à une dictature, leur projet.
Écoutez, regardez Trump, qui est pas très éloigné hein, de ce qu'est, je pense, ce que sont les partis populistes européens. Bon, il y a eu de nouvelles élections aux États-Unis. Alors, c'est pas dit qu'il reviendra pas ensuite. Mais bon, ça, c'est le jeu de la démocratie.
C'est pas une dictature. Ils se soumettent au suffrage. Et ils proposent un programme. Des gens votent pour eux voilà. délibérément. Donc on
est. Après, c'est la manipulation de l'information, des médias.
Oui, mais ça, c'est pas propre à.
Si
à
vous
un
voulez.
Parti. C'est propre à l'organisation politique et à la mouvance actuelle. Mais c'est que. En attendant, on peut ne pas être d'accord avec leur idée, mais si on est dit démocratique, on se doit de laisser s'exprimer tant qu'on n'est pas dans une incitation à la haine, à l'antisémitisme. Enfin, on a quand même un certain nombre de lois.
D'accepter le suffrage.
Et d'accepter le résultat. C'est
absolument. Bon. Je me suis beaucoup interrogée en lisant la BD. Alors, puisque je suis là avec Johann Spahn, j'en profite pour lui dire d'abord que je suis une fan. Je lis pratiquement jamais de BD, mais Le chat du rabbin, j'étais une fan absolue.
C'est tellement mal dessiné, on ne peut pas appeler ça une BD, vous savez.
Ça m'a été, attendez, je vous raconte cette anecdote, ça m'a été offert dans une commission du CNRS très sérieuse par un collègue, je ne connaissais pas, donc c'est vous dire jusqu'où pénètre votre littérature. Et donc j'ai lu la synagogue et je me suis effectivement interrogée, alors vous parliez des historiens, mais je trouve que c'est un... J'allais dire un document, ça va vous déranger si je parle de ça comme un document, mais il y a une grande complexité, je trouve, dans la vision de l'histoire, justement, qui est proposée, y compris des nazillons en
Bien
question.
Hein,
et ça, je trouve ça assez formidable. Alors, les nazillons, aujourd'hui, ils ont quand même globalement à peu près disparu. Moi, j'ai fait mes études au lycée Montaigne, qui était à côté de la fac d'Assas. Dès qu'on sortait, il y avait les gens du GUD, qui étaient casqués, armés, et qui n'attendaient qu'une chose, c'était de venir taper les gauchistes. Bon, ça, c'est quand
oui,
même...
Ou de faire des ratonnades, ou de...
Ou de faire des ratonnades, ou d'attaquer les juifs aussi. Oui. Et certains juifs quittaient d'ailleurs le lycée, parce qu'il y avait cette menace. Ça a évolué, mais il y a une autre extrême droite, dont il est question dans la BD, qui est apparue à ce moment-là, qui était le Grèce. Le Grèce, c'était un groupe d'intellectuels qui se sont dit, au fond, la meilleure stratégie, c'est pas la violence, c'est... Et ils faisaient référence, ce qui est un sacrilège absolu, à Gramsci, qui était un antifasciste communiste italien, en disant, la bonne stratégie, c'est passer par la culture. C'est arriver à une situation d'hégémonie culturelle. Et là... effectivement, on voit aujourd'hui ce qu'on voit aujourd'hui avec l'exploitation qu'ils font de la xénophobie, de ce qu'on appelle la crise des migrants, etc. Ben, c'est qu'ils sont en train de gagner sur ce terrain-là. Et un Alain Soral, par exemple, a été beaucoup plus dangereux, à mon avis, que les trois nazillons de génération identitaire qui rêvent encore de casser du gauchiste. Vous voyez, Zemmour récemment, ou une Marion Maréchal Le Pen qui a bien compris cela. Et Marine Le Pen aussi, avec son visage respectable, effectivement. Donc, je crois que, là je suis sur une chaîne grand public, j'en profite, hein, mais je crois qu'il faut aujourd'hui se battre d'abord sur ces questions de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, et il faut les prendre ensemble, il faut les combattre ensemble, voilà. Mmh.
Merci beaucoup, Marianne, d'être venue réveiller la France.
Merci à vous.
Merci, voici Alexis Le Rossignol.
Allez,
un bon moment pour la chronique.
Avec le lifestyle.
Ah oui.
Bonjour à tous.
Bonjour tatoueur.
Oui, la chronique vit-style. La chronique des gens vivants est stylée, comme moi. Et aujourd'hui, pour vous, je me suis intéressé aux nouvelles tendances de consommation dans le textile. C'est vraiment pour vous que j'ai fait ça.
Okay. Ça se voit.
Tout en sachant que vous n'en avez peut-être rien à foutre.
Non, si.
On ne fait pas un boulot facile. Vous le savez, il y a quelques semaines, les magasins Camaïeu ont fermé.
Ah oui.
Et 2600 salariés se sont retrouvés au chômage. On a une pensée pour eux et pour ce qui les attend maintenant, quand ils vont recevoir les offres Pôle emploi pour devenir conducteur d'engins de chantier à La Réunion, suivi de l'appel d'un conseiller qui va leur dire « Ça fait 3 ans, va falloir accepter ». J'ai des enfants, comment je fais ? Est-ce que vous les aimez vraiment ? Bref, en faisant ma petite recherche pour vous, je suis tombé sur un article qui décrit 3 facteurs pour lesquels l'ancienne Camaïeu a fermé. 1, le manque d'image face à des marques comme Zara, H&M et Mango par exemple. Bon, bah, c'est vrai que le positionnement de Camailleux, c'était flou, quoi. On savait pas trop. Un peu comme vous, Nagui. Depuis que vous vous teignez les cheveux en gris pour vous faire passer pour un animateur historique du service public, on est perdu, quoi. Ou un peu comme les vannes de Cominec aussi. On sait pas trop. Est-ce qu'elles sont A, racistes, B, antisémites ou C, grossophobes? Un peu les trois à la fois. Ouais, on sait pas trop. C'est là, ça existe, mais ça prend pas de risque, quoi. Des blagues molles. Pas le genre de vanne que je ferais à l'européen les 29 novembre et 1er décembre à 19h. Les places sont mises en vente aujourd'hui, messieurs. À votre bon cœur. Il y en aura pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pardon, j'ai oublié le pas. Deuxième raison du déclin de Camailleux, le télétravail. Parce que les gens achètent moins de vêtements. Comme quoi, les photomontages du premier confinement, vous vous souvenez, où on voyait des types en chemise et cravate en haut et caleçon en bas. Mais en fait, c'est devenu la réalité, quoi. Daniel, te lève pas. On veut pas le savoir. Et troisième raison, l'essor de l'habillement de seconde main en friperie et surtout l'appli Vinted. Vinted, ça cartonne. Vous savez combien il y a de transactions sur Vinted par jour en France?
C'est énorme.
Allez-y.
Je sais pas.
C'est fou.
50 000.
Oh, t'as vu, non?
Non.
Ah bon? Incroyable. C'est 400 000. Mais il est fort, Tanguy Pastureau, quand même. Pile dedans.
400 000?
Ouais. C'est énorme. C'est fou, hein. Maintenant, les vendeurs qui font plus de 3 000 euros de vente par an doivent déclarer ça pour les impôts.
Ah bon?
3 000 euros de vente sur Vinted. Je sais pas comment ils font, hein. Parce que moi, j'ai mis des fringues en vente il y a un an, j'ai encore rien vendu.
Oui, c'est vrai.
Ça doit être mon téléphone qui déconne.
Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Moi.
Sur Tinder non plus, il marche pas. Je suis là, oui, 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 je prends tout, je suis pas regardant, je me distrairai après. J'ai rien en échange. C'est un problème de giga de RAM, je pense. Ou de mégaoctets dans la carte mère, un truc comme ça. Il y a que l'appli Flixbus qui fonctionne bien sur mon téléphone. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les gens achètent moins de vêtements neufs qu'avant et en achètent de plus en plus d'occasion. Et là, on se dit, super, c'est exactement ce que les écolos nous demandent de faire. Mais manque de peau, ça crée du chômage. Merde. On croit pouvoir se réjouir, en fait, on peut pas, quoi. Donc après, on va pas être... Non, c'est là qu'on voit quand même que l'équation est pas facile. Parce que pour qu'il y ait moins de chômage en France, il faut de la consommation, Dixit BLM, Bruno Le Maire. Mais pour sauver la planète, ou du moins nous, petits humains faibles qui la peuplons, il faut moins consommer, Dixit ALR. Alexis de Rossignol.
Yeah.
Mais voilà, je sais pas si les gens sont prêts, et surtout pas les jeunes. Parce que selon le super article que j'ai lu là, dans 20 minutes, parce que je fais une chronique entière sur la base d'un article lu dans 20 minutes, c'est vraiment quali 20 minutes. Selon l'article, les jeunes n'achètent plus sur Vinted en raison de motivations écologiques, mais pour accéder à des marques de luxe sans payer le prix du neuf. Mmh. On croit avoir une génération engagée, en fait, les gamins chinent sur Vinted pour s'habiller en Chanel ou en Dior, quoi. C'est pas gagné, messieurs, c'est vraiment pas gagné, quoi. En attendant, bon courage aux 2600 salariés pour retrouver un emploi. Heureusement qu'il y en a de l'autre côté de la rue ou à La Réunion.
Merci, Alexis Rossignol. Allez.
Alexis Rossignol,
à l'européen,
Mister Fashion, qui sera à Tours le 20 octobre et à Hasbrook dimanche prochain pour le retour de la tournée des humoristes France Inter.
Très bien. Tanguy Pastureau nous a rejoint. Tanguy, bonjour.
Bonjour. Alors, oui, je veux parler, Nagui, d'une histoire rocambolesque. C'est l'histoire de poule en Espagne qui s'est mise à surveiller des militaires dans une zone militaire. Voilà, elle avait une caméra sur elle, incroyable.
C'est la bande originale avec Leïla Kato-Boudadi, Morgane Gagnon, Laura Demange, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour, Tanguy.
Et
bonjour,
notre invité, John Sparr.
Oh oui,
Morgane.
John Sparr signe la synagogue chez Dargo et également chez Gallimard Jeunesse. On s'en fout quand on est mort. Toujours avec ces titres qui finalement... Pardon, hein, n'ont aucune importance par rapport au carnet. C'est-à-dire, comment maigrir, ça n'avait rien. C'est une vanne, on va
vous
dire.
Vous voulez que j'ai pas réussi
dans 300 pages. C'est une vanne dans 300 pages.
Vous êtes nul en titre, oui. Joanne Soir, en fait.
Mais c'est un peu la vie comme elle vient. Donc, je prends des phrases qui résument. J'essaie de trouver un thème, bien. Mais bon.
Mais c'est vraiment aussi pour que la personne qui passe et qui voit l'un de vos lecteurs ne voit que le titre en se disant ça m'amuse.
Oui, c'est des livres qui provoquent des rencontres, ces carnets.
C'est des punchlines, ouais. En tout cas, c'est extrêmement drôle. C'est une sorte, encore une fois, de mise en abîme où on voit votre métier de dessinateur aussi bien au Beaux-Arts quand vous êtes professeur, quand vous demandez d'ailleurs quelle est la place de la bande dessinée au milieu de l'art, parce qu'elle n'est pas toujours bien, elle n'a pas toujours été bien accueillie, en tout cas.
Non, quand j'étais étudiant, non. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est super bien vu. On est très bien accueillis. Les plasticiens sont contents de nous voir parce qu'on va dessiner dans leur truc. Et moi aussi, je m'ouvre au monde. J'accepte plein d'élèves qui sont plasticiens et qui font pas de
de BD, donc moi j'apprends, hein, je m'éduque aussi.
Alors on dit qu'aux Beaux-Arts, lorsqu'il y a des modèles qui posent, évidemment c'est pour la beauté de l'art et qu'il n'y a pas de voyeurisme de la part des dessinateurs. Venant de vous, je me pose la question par moment, parce qu'il y a des... Il y a des scènes qui sont dessinées où on sent que vous avez un malin plaisir à observer le modèle en question.
Alors, je ne sais pas de quelle scène vous parlez, parce que là, c'est presque l'inverse. C'est presque... Mon prof me disait que c'est très ennuyeux d'avoir quelqu'un qui pose pour des motifs techniques et qu'il vaut mieux dessiner les gens habillés à côté qui se mettent dans toutes sortes de positions pour le dessiner. Après, non, je crois qu'il faut faire vraiment une distinction entre le dessin qui est un dessin d'apprentissage technique machin, et le dessin du moment où quelqu'un nous plaît, où on pense à quelqu'un, mais ça c'est une autre forme de dessin, c'est pas...
En tout cas, vous aimez dessiner les femmes, et même si elles sont...
Mais les hommes aussi, et les animaux aussi.
Même si nus, alors je rajoute, oui. Même si...
Mais on s'identifie à son modèle, hein. C'est pas... Quand on dessine un modèle, c'est pas j'ai envie de le pécho, c'est j'ai envie d'être elle, c'est un peu différent.
Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas très tendre avec vous quand vous dessinez nu.
Oui.
Non.
Vous ne mettez pas spécialement en
valeur. Ah oui, mais alors voilà, parce que je ne comprends pas de quoi vous me parlez. J'ai tout un passage sur les BD érotiques, sur pourquoi j'en fais pas.
Ouais. Parce que vous ne savez pas dessiner les zizi, ou vous ne savez pas comment les dessiner.
Si, je saurais, mais ça ne m'excite pas. Ça m'intéresse, mais ça ne m'excite pas. Donc je cherche un. Déjà, moi tout nu, ça m'excite moyennement. Donc je suis obligé de dessiner un autre mec, alors je ne sais pas pourquoi.
Si.
Mais ça, il y a les professionnels pour en parler.
Les professionnels du dessin.
Ouais. Aussi, il y en a.
Qui dessine parmi la bande d'ailleurs?
Laura, tu ne sais pas.
Moi, c'est
Morgane, non.
Ah, hyper mal.
Ah non, préférable que non.
Rien.
Tanguy. Des zizi.
Des zizi.
Ah,
sur les
toi.
Bureaux.
Voilà.
Alexis, tu sais dessiner non plus. Daniel non plus. À quel moment vous êtes rendu compte que vous aviez ce don à l'école?
J'étais pas celui qui dessine le mieux, j'étais celui qui dessine tout le temps, ce qui est assez déplorable. Il y en a qui dessinaient beaucoup mieux, mais j'ai juste jamais rien voulu faire d'autre. Et ça se confirme, hein. Dès qu'on me demande de faire autre chose, ça se passe pas très bien.
Vous donnez aussi une explication dans votre journal, justement, de comment faire des bandes dessinées. C'est-à-dire, vous donnez aussi des conseils sur la taille.
Ah oui, j'ai une méthode.
Oui, c'est ça, sur le cadre, vous écrivez d'abord le texte avant de faire les dessins.
Ah oui, bah oui, parce que ça va prendre une place dans la page. Souvent, les gens, ils pensent pas, ils font tous leurs dessins, et après, ils disent, mince, faut rajouter une bulle. Mais moi, j'ose pas, mais je recommande aux gens les méthodes pour enfants de bande dessinée. Là, chez Fernand Nathan, ils ont fait une super méthode, ils me payent pas. Et parce que dans les trucs pour enfants, on ose dire aux gamins, bah là, on a rien compris à ta page, refais-la. Tandis que quand on dit ça à un adulte, surtout s'il a eu un prix Angoulême, ça le vexe, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des BD formidables en France, mais il y a des BD formidables auxquels on comprend rien. Et moi, il me semble que plus le propos est complexe, plus il faut que l'exposé soit, enfin, je suis un peu cartésien, mais soit intelligible.
Chez Gallimard Jeunesse, on s'en fout quand on est mort. Et chez Dargo, la synagogue, signé John Sfar. On continue avec lui jusqu'à 12h30. Mais voici Tanguy Passion.
Hier, j'étais en train de calculer la portée d'un missile russe pour voir si déménager à Melun me mettrait à l'abri d'une mort certaine dans le cas où tonton Vladimir appuierait sur le buzzer. Et là, je me suis dit, Tanguy, mon chéri, l'actu est difficile. Il y a la guerre. En novembre, Christine and the Queens et Claudio Capeo sort des albums. L'équipe de la BO est fatiguée, livide. Il y a encore un mois, on avait envie de se les taper. Là, on a l'impression qu'ils viennent de sortir d'une fosse commune. Allez, donne de la joie, quoi. Et donc, je vais parler animaux, parce que les animaux, c'est rigolo. Surtout les chats, parce qu'ils arrivent à se laper l'anus. Alors que les humains, rarement, à moins de sortir avec un mec du Cirque du Soleil qui est pas encore trop tombé du trapèze et donc est resté souple. Non, je veux vous parler d'une poule. Un article que j'ai lu sur le Huffington Post. Alors ça se passe en Espagne, ce pays qui nous a donné Rafael Nadal et la tortilla. Pour les distinguer, Nadal, c'est celui qui porte un short. Bah, bon moyen mémotechnique. Ça évite à se retrouver à avaler un tennisman espagnol. Au pire, à dire à une tortilla, bon alors ça fait 2 heures, j'attends que tu serves, quoi. Hein, donc nous sommes en Catalogne, cette contrée à qui on a tenté de refiler Manuel Valls et qui nous l'a rendu. Hein, il a la même vie que les slips commandés sur Amazon qu'on renvoie parce qu'ils sont trop petits. En Catalogne, donc, il y a une base militaire, la base de San Climent, où les soldats s'entraînent en conditions réelles. C'est-à-dire qu'il y a des tirs, des sacs de sable. À un moment, Bernard-Henri Lévy vient leur dire « Bon, les gars, vous me couvrez, j'ai un shooting photo. » Bon, la routine, quoi. Quand un jour, sur la zone de manœuvre, les militaires aperçoivent une poule avec accrochée sur elle une caméra. C'est Youpool, quoi. Un militaire dit aux autres « Hermanos », parce que je rappelle qu'on est en Espagne. « Hermanos, cette poule, c'est peut-être L214 inversée. Si ça se trouve, une fois qu'on aura bien mangé à la cantine, ils vont nous saigner et faire des human wings avec la cuisse à Pedro. »
cette poule nous filme pour témoigner. Intrigués, ils attrapent la poule. Il leur faut 4 heures, parce que le truc court dans tous les sens. Hein. Il paraît que même quand on leur coupe la tête, elles courent, les poules. Alors que nous, non. Louis XVI, il s'est pas relevé sans tête en disant, bon, c'est pas tout ça, mais j'étais parti pour me poser à Varennes. Hein, les mecs, j'y retourne. Il chope la poule et réalise qu'elle a une caméra filmant en temps réel, comme le retour de la Starac, mais avec un champ plus harmonieux, quoi. Ainsi qu'un détecteur de mouvement. C'est cet appareil que n'a pas la femme de Laurent Deutsch, parce qu'à chaque façade de maison, il est sautillé en disant, tu sais qu'ici est mort en 1504 le poète Théobald de Montaigu d'une pisse qui boue. Un pisse qui boue, c'est quand à l'époque on avait cumulé 16 chauds de pisse. Donc les militaires se disent Madre de Dios par la beauté sanguine de Penelope Cruz. Cette poule nous espionne. Hein, c'est Karine Le Marchand qui en a marre des Français et veut refiler un paysan gay de la Nièvre des Espagnols mouigolés. Hein, ils disent que la poule les a peut-être filmés sous la douche sans qu'ils s'en aperçoivent. Après tout, une poule trempée, ça ressemble à une éponge de bain. Je veux dire, à louer dans la Sarthe, la plupart des gens, par erreur, se lavent en se frottant avec une poule. Hein, ils ressortent de la salle de bain, ils ont 2 jeunes d'œufs à la place des tétons. Donc, les soldats examinent la poule avec méfiance. Il s'agit peut-être d'une poule piégée. Et réalisent qu'il y a une étiquette sur la caméra de la poule avec écrit Université de Gérone, étude de la faune. Un des militaires appelle l'université et dit, c'est quoi une université? Parce que c'est un militaire. Et là, un biologiste, ces gens qui peuvent parler avec passion des 130 espèces différentes de fougères et qui donc sont vierges, dit oui, c'est ma poule, j'ai toutes les autorisations. Cette poule, en gros, a un pass VIP. Un soir, on la voit au bras de Jeff Bezos à LA en train de lui dire ça va tête d'œuf. Le lendemain, à Pattaya, en train de refiler des petits poussins à Gabriel Maznev. Tout a été validé par les autorités, puisqu'en fait, le biologiste réalisait une expérience sur les aigles. Et en fait, la poule n'était là que pour servir d'appât. Voilà comme on foutrait une photo d'Adrien Quatennens devant chez Mélenchon si on voulait le faire sortir de sa villa à la Caracas Mansion. Hein, et il sortirait en disant ah là là, mon pauvre Adrien, il est bon, il est génial. Mais je soutiens la cause des femmes. Bon, cette poule, vous l'avez compris, était juste là pour se faire bouffer. Après, ce que je ne comprends pas, c'est que la caméra se serait trouvée dans l'aigle à la fin. Et pardon, mais enfin, mon oncle un jour m'a montré la vidéo de sa coloscopie par erreur. Hein, c'était dans son album photo d'iPhone. Il voulait que je voie la tête de son petit-fils. J'ai dit ah oui, non, il a une drôle de tronche. Il m'a répondu non, ça c'est mon colon. J'ai dit ah bah c'est vrai que je trouvais Théo long et visqueux quand même. Bon, bref, je déconseille les vidéos filmées à l'intérieur des êtres vivants. Hein, la captation qu'a faite Jean-Marie Bigard de son spectacle, bon, c'était bien jusqu'au moment où, pour la blague, il a essayé de s'enfoncer dans les fesses la caméra de la chaîne Comédie, quoi. Et attendez, c'est pas la seule histoire de poule espionne. En février aux États-Unis, une poule avait été arrêtée à proximité du Pentagone, le bâtiment le mieux protégé au monde. Le deuxième, c'est les points de deal dans Paris quand il y a la Fashion Week. Là, par contre, elle n'avait pas de caméra. On n'a jamais su d'où elle venait. Ça a fait comme avec Papendiaï, le ministre de l'Éducation. Poule qui avait été arrêtée par la police et remise dans un poulailler. Il y avait le vieux mec de KFC qui disait « Donnez-la moi !» Mais elle a été mise à l'abri. Tout ça pour vous dire qu'une poule près du Pentagone, une poule sur un terrain militaire, c'est quand même suspect. Hein, ouais. Voilà, je conseille à tout le monde ici, en présence d'une poule, de parler doucement. On ne sait jamais, un de nous sur scène fait une blague raciste. Donc surtout moi. Dans la salle, il y a une poule qui filme, mais la carrière est finie. Méfiez-vous des poules.
Merci.
Tanguy qui sera dans le Pas-de-Calais à Ferc le 28 octobre.
Oui. John Sfar, doublement dans l'actualité avec La Synagogue publiée chez Dargo édition, et puis avec son carnet, son nouveau carnet, On s'en fout quand on est mort, publié chez Gallimard Jeunesse. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'un acteur mythique de Star Wars qui vient d'annoncer qu'il allait prendre sa retraite.
Chewbacca.
Et pourtant, ça ne nous empêchera pas de le retrouver dans les futurs films.
Harrison Ford, non?
Non.
Ah bon?
Non.
Et c'est pas celui qui jouait Skywalker, alors on ne sait jamais le nom.
Matt, c'est pas lui.
C'est un robot.
De Neil.
C'est pas lui.
C'est le personnage ou l'acteur, si
tu veux. Hamill, Mark Hamill, non?
Non.
C'est 3PZO.
Non. Attends,
c'est Chewbacca. Oui, c'est le monsieur dans Chewbacca.
Non, c'est pas le monsieur dans Chewbacca.
C'est le monsieur dans le petit robot.
Mais c'est le monsieur dans.
R2D2?
Non.
6PO, j'ai pas de notes. 6PO.
Non, c'est
dans
3PO.
Harrison Ford.
Moins pointu.
Un copain.
Non.
Bon. Dans un
livre. Star Wars, des arbres.
Jabba le Hutt.
Langosha.
Dans Dark Vador.
Merci.
Bah.
Eh bien oui.
Ah, celui-là.
Eh oui, James Earl Jones.
C'est toujours le même.
C'est Dark Vador, c'est surtout sa voix, en fait. C'est une voix. Ah. Donc sa voix, en fait, il est vieux, il a 91 ans.
Ah,
Et ouais. Donc il y a un moment, il s'est dit, les gars, je vais
arrêter de faire des choses.
Je suis ton grand-père.
maintenant, il peut faire cette voix sans se forcer. C'est ça,
exactement.
À 91 ans.
Mais que les fans se rassurent, en fait, il va continuer à prêter sa voix parce qu'ils ont enregistré sa voix. Ils vont pouvoir la reconstituer, voilà. Ouais. Et donc pouvoir faire en sorte que les prochains opus de la saga soit encore avec la voix de James Earl Jones. Je ne sais pas, 91 ans, le pauvre.
Ils sont surtout en train de prévoir sa mort, quoi.
Ils sont tristes. Et en même temps, ils sont en train de faire en sorte que les héros ne meurent jamais. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu rassurant pour ceux qui sont très très attachés. On voit comment, dans une franchise, quand on change un truc, les gens crient au scandale. Peut-être que la voix de Dark Vador, fallait pas y toucher. Est-ce qu'il y a des héros de
ils
votre enfance
faire blanc, Dark Vador.
J'espère que ça change un petit peu. Est-ce qu'il y a des héros de votre enfance, comme ça, qui sont importants pour vous?
James Earl Jones, qui faisait la voix de Dark Vador, qui jouait, Tulsa Doom dans le Conan de John Milius.
Jean, vous le connaissez.
Bien sûr. Et le monsieur qui était dans le costume de Dark Vador s'appelait David Prowse. Anecdote que vous connaissez sans doute pas. Non. Ils font l'Empire contre-attaque. Les soldats impériaux arrivent dans la base enneigée. Il y en a un qui marche sur la cape de Dark Vador. Dark Vador se casse la gueule et il y a 10 soldats impériaux qui lui tombent dessus. C'est vrai. Ça a été filmé et Lucasfilm n'a jamais sorti.
Le bêtisier.
Voilà. Mais ça a été filmé et les acteurs en ont parlé.
C'est génial.
Il y a un Ewok qui pète aussi à un moment.
Dans le casque de Dark Vador.
Autre question, vous allez rire. On va parler de Taylor Swift. Lors d'une soirée, lors d'une soirée de remise de prix à Nashville, elle a dévoilé son processus et son secret d'écriture. Quel est ce secret?
Écrire avec Fanny Rué.
Elle adorerait, je pense.
C'est pas le cut-up.
Elle fait des vocaux avant.
C'est un... Non, pas des vocaux.
Elle écrit ses textes en s'inspirant d'autres morceaux.
Non.
Elle appelle quelqu'un.
Non.
Elle écrit avec ses pieds.
Non.
Elle écrit nue.
Non.
À la bouche.
Dans son secret d'écriture.
Elle rêve de Joan Swan.
Elle écrit tout à la main, mais...
Avec une plume.
Non.
Rouge à lèvres,
non
sur
plus.
Un miroir.
Non plus.
Avec un burin, elle sculpte.
Elle grave.
De l'encre invisible.
Non. C'est pas scato.
Ouais, des crayons, mais des crayons.
Des crayons de couleur.
Des feutres.
Des crayons à maquillage.
Pour écrire dans
parfumé.
Son bain.
Parfumé, des rouges à lèvres.
Non. Rose de couleur.
Elle écrit avec des rouges à lèvres.
Des crayons qui puent.
Non, je vais vous donner.
Des crayons.
Non, des stylos différents selon le type de création. Alors écoutez, c'est une grosse info. Hein. Elle a donné ce secret. Donc pour être exact. Il y a des crayons, il y a le stylo plume pour écrire certaines paroles. Il y a un stylo à encre pailletée pour en écrire d'autres.
Ah, donc en fonction de l'humeur du texte, elle change la couleur.
Voilà, et les catégories qu'elle se figure. Et comme ça, elle est mieux inspirée. Elle est davantage inspirée.
Il y a des gens qui ont trop parlé.
Mais attends, mais c'était.
Ça tient.
Non, mais on en avait parlé ici d'écrire en fonction de la couleur. Non, le stylo qui donne l'humeur. Ah si, on en avait parlé dans cette émission. Non ? On avait une invitée qu'on avait demandé quel pouvoir
c'était
magique.
C'était pas un apéro que vous avez fait avec
quelqu'un.
Non,
du tout.
On va chercher. On va retrouver. Votre processus d'écriture à vous, Joan Sfar, quand vous écrivez un roman.
À la main, parce qu'on s'est rendu compte que quand j'écrivais à la machine, c'était moins bien. Et c'est mon éditrice qui me l'a dit.
Comment ça?
Ah bah à un moment, elle m'a dit, mais les deux derniers, t'as pas écrit à la main? J'ai dit non, elle m'a dit, c'est moins bien, tu reprends à la main.
Pourquoi?
Bah parce que c'est un peu plus lent à la main, donc je pense que je réfléchis un tout petit peu plus.
Ça vous plaît ce rapport de soumission que vous avez avec votre éditrice?
Elle est géniale, elle s'appelle Florence Godferno et elle me dit quand c'est chiant. Ouais. Ça c'est très important. Et elle lit, elle dit, là je me suis emmerdé. Ouais. Et là c'est tellement vexant que je refais.
Est-ce que vous avez des superstitions quand...
Oui. Ah oui.
De quelle nature?
Par exemple, je me suis dit que quand j'écrivais, il fallait que je fasse 17 pages par jour. Et quand il n'y a pas les 17 pages, quand il y a trop, je me dis que ça va être pas bien. Ouais. Et quand il n'y a pas assez, c'est qu'il en reste.
D'accord. Et d'autres superstitions de ce type-là?
Malheureusement, je mange. Parce que j'écris et je bouffe. Et j'ai vu une nutritionniste pour la première fois il y a 2 semaines. Elle m'a dit, tu achètes un carnet Hello Kitty et tu notes tout ce que tu manges. Oui. J'ai acheté le carnet à l'heure où je vous parle.
Vous n'avez pas mangé.
Mais quand même, vous dessinez beaucoup plus gros que vous ne l'êtes, je trouve.
Ah, c'est gentil. Ma femme a dit l'inverse.
Ah, c'est peut-être pour ça que
ma femme me dit, mais tu crois vraiment que t'es comme ça?
Non, mais c'est vrai. Non, mais Laura, c'est d'autant plus vrai que quand ce matin, quand je vous ai accueilli, je dis, mais vous avez maigri. Mais en fait, c'était ça, c'était par rapport à la bande dessinée.
Mais ouais, la BD.
Mais ouais, carrément.
Vous êtes trop mignon.
Quand vous êtes allongé.
Je viens déjà tout le temps.
Joanne, quand vous êtes allongé dans le lit d'hôpital et qu'on voit votre ventre un peu proéminent avec
c'était dégueulasse. Mais parce que moi, je le vois de là. Regardez votre propre ventre vu depuis votre tête. Sincèrement, c'est dégueulasse. Moi, le matin, le seul moyen que j'ai de voir mes parties génitales, c'est dans la part réfléchissante du passe-personne.
Ça, c'est ce qui nous arrive quand on est enceinte.
Là, ça devient grave. Là, ça devient très grave.
Moi, je demande à quelqu'un son avis.
Dans votre carnet, vous évoquez au Beaux-Arts une artiste qui a fait une installation de nu justement et qui a été conspuée en tout cas par ses camarades.
Ah non, c'est pas nu. On avait un espace d'expression libre et j'ai une élève formidable qui s'appelle Margot. Elle a dessiné un zizi en érection très réaliste. Et il y a une autre élève qui n'est pas de mon atelier, qui est passée derrière, qui a arraché son zizi.
Mais non.
Donc, oui. Alors ça a donné lieu à tout un débat, mais qui a duré un mois dans l'école, pour savoir si un zizi en érection peint par une fille, c'était de la masculinité toxique ou si c'était de l'empowerment féministe. Et si, quand on est offensé, comme l'autre élève qui est passé derrière par un zizi, on a le droit d'arracher l'œuvre d'un autre étudiant ou s'il vaut mieux pas peinturlurer dessus.
Et d'ailleurs, vous vous dites, je n'ai
moi,
pas
je
d'opinion.
Rien.
Oui, c'est ça.
Moi, je dis rien, je me marre.
Non, mais c'est-à-dire que vous ne prenez pas, j'allais dire, vous prenez pas parti pour l'une ou l'autre.
Ah non, moi je m'amuse. D'abord, je raconte, je décris. Je suis étonné d'avoir une génération qui trouve que le nu est à ce point touchy parce que je viens d'un temps où c'était différent, où quand on était habillé, c'était scandaleux.
Le nu, c'est une chose. Le nu en érection, c'en est une autre.
Oui, on vient d'une autre époque, mais c'est pas grave. J'apprends. Mais je vais pas aux Beaux-Arts pour imposer mes opinions. Je vais aux Beaux-Arts pour écouter les élèves, pour m'informer sur la génération qui vient. Je vous cache pas que je mange du pop-corn pendant ces débats. J'assiste. Mais j'aimerais pas être à la place de la direction de l'école parce qu'ils ont des débats comme ça toutes les deux semaines. Et en même temps, c'est marrant.
On a reçu Bastien Vivès dans cette émission et puis on avait évoqué le Petit Paul qui a été une bande dessinée taxée de pédopornographie, qui a été vendue sous
blister.
Sous blister, qui a été retirée de la vente de certains libraires.
Enseignes, ouais.
Voilà, il y a des personnes qui ont été choquées qu'on évoque cette bande dessinée, alors on est désolé s'ils ont été choqués, mais cette bande dessinée a été retirée de la vente et n'a pas subi de décision judiciaire ou de retrait ou de censure. Est-ce que tout peut être dessiné? Est-ce que vous avez vu Petit Paul? Est-ce que pour vous c'est choquant de dessiner les...
Je pense qu'on est dans un monde où beaucoup plus de gens voient beaucoup plus d'œuvres, parfois sans les avoir lues. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les gens qui discutent une œuvre sans l'avoir lue ou sans l'avoir ouverte. Après, moi, pour reprendre un terme à la mode, moi, je suis très woke. Hein. Moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse attention à la sensibilité des uns et des autres. Ce qui est compliqué, c'est dès que tu dis à un artiste, t'as pas le droit de faire ça, t'as envie de le faire mille fois plus. Après, je pense qu'il faut se civiliser les uns et les autres et apprendre surtout le lieu où on met les choses.
Oui, mais sur l'antisémitisme, vous permettez toutes les vannes et toutes les blagues parce que vous dites, je suis juif, donc
je
peux me permettre...
Ah non, je dis surtout pas ça. Je suis pas le mec qui va dire, il faut être juif pour faire des blagues sur les juifs, ce serait un enfer.
Mais il n'y a aucune blague sur le voile ou sur les musulmans.
Oh si, j'en fais. Mais mon sentiment, c'est qu'on peut tout faire tant qu'on a, d'une certaine façon, le cœur pur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, je pense que la saloperie, tu la vois dans la tête. Je pense que les gens qui ont une sale idée en tête... Je veux dire, Bastien Vivès, il est pas pédophile. Bastien Vivès, il dessine des conneries parce que ça le fait marrer, et que ça fait marrer ses copains. Et à un moment, je comprends que des gens puissent être blessés, machin, etc. Mais il y a un lieu... Il faut se demander qui parle. Moi, je suis inquiet des œuvres jugées avant d'être lues. Ça me préoccupe beaucoup.
Bah, nous, on a lu votre œuvre et on la juge intelligente.
On est plus qu'inquiet.
Drôle.
Plus qu'inquiet.
Et urgente. Ça s'appelle
la lire.
La synagogue chez Dargo.
On apprend plein de trucs. Notamment sur ce robinet au cimetière du carré juif qu'on met nettoyer. Pourquoi? Pour pas amener la mort dans la ville.
On se lave les mains en sortant du cimetière pour pas amener la mort avec soi.
Ouais.
Il y a également donc cette espèce de mise en abîme de vos carnets, finalement, la suite. C'est toujours ces fenêtres ouvertes aussi sur notre vie quotidienne personnelle, mais surtout sur la vôtre. Ça s'appelle « On s'en fout quand on est mort » chez Gallimard, bande dessinée. Des excuses à présenter Daniel Morin.
Oui, déjà, désolé pour nos auditeurs pacifistes qui ce matin étaient quelque peu choqués par notre apologie de la baston, des sports de combat, du coup de boule, du crevage d'œil, de l'arrachage de zizi. En même temps, ça m'excite, ça me donne des envies. Laura, Morgane, vous pouvez tenir Alexis, je sens que j'ai envie de lui rendre hommage. Désolé pour tous les fans de gauche de Jones Farr qui ont découvert ce matin un nostalgique de Jacques Médecin, un ami de Christian Estrosi, un pote des nazis, admirateur de blonde aux yeux bleus, bref, un type chelou, un mec à mi-chemin entre CNews et Sud Radio. Johan, emmène-moi dans ton royaume. Désolé pour la gaffe. Oui, la gaffe dont le talent, la carrière ont tout simplement été... salopé par Laura de Mange. Alors on s'excuse, hein. Vous voulez qu'on passe un extrait pour se rattraper?
Non, d'accord.
Non.
C'est l'enfer cette chanson. Ça m'a jamais fait rire.
Et alors, il y a eu le racisme? Il y a du racisme?
Non,
c'est du talent et c'est tout.
Si tu veux repartir dans les cauchemars de Johannes Farr.
qui ça
Bande de beaufs.
Complètement.
Merci, John Farr. Non, mais c'est dans les carnets, hein, c'est ça.
Oui, je sais, mais nous, on a vieilli.
Cette chanson vous tourmente. Demain, c'est Chantal Latsou qui sera notre invitée. Passez une très bonne journée sur Inter. À demain.
Alors.